Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Ravi de vous retrouver sur RMC à 20h45, coup d'envoi de la 22e journée de Ligue 2 en multi sur RMC. Demain, première affiche de la 22e journée de Ligue 1. Il y aura Paris Saint-Germain, Toulouse à 17h, 3 Lyon à 19h, Rennes-Lille à 21h avec nous ce soir. Roland Courbis, salut Roland.
Salut les amis.
Salut Roland.
Salut à tous, ça ne te regarde pas.
Ça commence bien, pourquoi pas.
Au sommaire,
en attendant, le multi Ligue 2, Mbappé blessé, forfait contre l'OM en coupe la semaine prochaine, mercredi. Incertain pour le match face au Bayern en Ligue des Champions, le PSG a-t-il mal géré le cas Mbappé? On attendra Christophe Galtier qui est en conf de presse aujourd'hui sur la question et supporter du PSG. On vous attend au 32-16. Autre journée de compte, c'est à l'OL. Alors pour les présentations des recrues Sarr et Jeffinho, Bruno Cheroux, le responsable du recrutement, a fait le bilan de son mercato et de son boulot depuis qu'il est en charge du recrutement lyonnais. Il se défend face aux critiques. Est-on trop sévère avec Bruno Cheroux, là aussi supporter de l'OL? On vous attend au 32-16. Et puis on plongera dans la saison du HAC en Ligue 2, leader avec 10 points d'avance sur ses dauphins. Quels sont les secrets de cette saison inattendue? Réponse avec notre correspondant Christophe Lécuyer. Je vous rappelle un coup d'envoi d'ailleurs de cette 22e journée de Ligue 2 avec notamment l'affiche entre Le Havre et le PFC. Il y aura Pau-Bordeaux aussi, il y aura un bon Rodez-Sochaux, Valenciennes-Laval, Cambastiani, Grenoble, Quevilly-Rouen-Guingamp ou Dijon-Niort. Dijon-Niort qui sera match de la peur du soir hein, également. Allez, on débute par de la Ligue 1. Demain donc 17h sur RMC. PSG Toulouse. Beaucoup d'informations concernant les joueurs parisiens qui affronteront l'OM en 8e de finale de Coupe de France mercredi et le Bayern en 8e de finale de Ligue des Champions le 14 février. Alors Verratti sera suspendu contre Toulouse. Il a pris 3 matchs de suspension, dont un avec sursis après son rouge face à Reims. Il devrait être dispo, hein, donc Roland, pour le match de Coupe de France face à l'OM, hein, Verratti.
Oui, absolument.
Voilà. Touché aux adducteurs, Neymar sera absent contre le TFC. Ramos blessé contre Montpellier, lui aussi forfait. Lui aussi, il est touché aux adducteurs. Mukiele, il est aussi HS. Kimpembe, il a repris l'entraînement cette semaine, mais figure pas encore dans le groupe parisien. Quant à Kylian Mbappé, il est touché au biceps fémoral et devrait donc être absent pour plusieurs semaines. Ça commence à faire beaucoup là, Roland, quand même, non?
Oui, absolument. C'est une période compliquée. On va pas revenir sur l'après Covid. On ne sait même pas les dégâts qu'a pu faire le Covid ou que peut faire encore le Covid. Derrière ça, tu as des calendriers pour certaines équipes qui sont tout simplement abominables, mais de l'autre côté, tu joues à peu près dans tous les trois jours dans certaines périodes, tu es obligé d'y laisser des plumes. Et après, il y a cette Coupe du Monde qu'il faut avaler, qu'il faut digérer dans une période qui est complètement inhabituel. Donc on sait pas ce qu'il faut faire, ce qui est mieux de faire dans une Coupe du Monde placée entre même pas les matchs aller, les matchs retour, un peu avant les matchs retour. Donc qu'il puisse y avoir des dégâts, je suis désolé, mais c'est le contraire qui serait anormal. Et je trouve tout à fait logique qu'il y ait des problèmes, et des problèmes bizarrement musculaires derrière des joueurs qui, je prends le cas Mbappé, mais avec ce que fait Mbappé sur un terrain de football depuis des années, compte tenu de son âge, compte tenu de ce qu'il fait intellectuellement dans les interviews, dans les records, dans les stats, mais si Mbappé ne se blesserait jamais, que ça serait anormal et inquiétant. Là, on a dit, tiens, finalement, c'est pas un extraterrestre. Et ensuite, attends, je veux voir, parce qu'avec cet Mbappé, il faut s'attendre, je dis pas à tout, je dis pas qu'il fait la comédie en disant que c'est plus grave ou que les résultats d'IRM ou de l'écho, c'est, mais que Mbappé aille beaucoup mieux compte tenu qu'il est, je dirais, pas tout à fait normal comme il est construit.
T'as vu ce qu'a dit Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern? Il a dit, je crois pas qu'il sera absent contre nous en Ligue des Champions, donc pour le 8e de finale aller le 14 février. Je sais pas ce qu'il a. Ce qu'il y a d'indiqué sur Internet est vague, a-t-il dit, je me prépare pour le match comme s'il allait jouer.
Ouais, mais ça si tu veux, c'est tout à fait logique qu'il puisse dire ça en disant, bon, allez, ne nous réjouissons pas de l'absence de Mbappé. Premièrement, parce que un Mbappé absent, le Paris Saint-Germain ne jouera pas à 10. Et ensuite, un Mbappé absent, avec trois semaines de diagnostic. Normalement, si c'est trois semaines, d'habitude, on dit, ouais, c'est plutôt quatre. Mais avec Mbappé, trois semaines de diagnostic, je serais pas étonné que dans une dizaine de jours, on puisse se dire, peut-être dans 48 heures, là, il va pouvoir jouer ou au moins les 30 dernières minutes. Alors après, il y aura le risque de la rechute, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, toujours est-il que pour en résumer, ce qui se passe au Paris Saint-Germain et ailleurs, qu'il y ait beaucoup plus de joueurs blessés qu'habituellement, ouais, c'est tout à fait logique.
Ouais. On vous attend, un supporter du PSG au 32-16. Est-ce que le cas Mbappé a été mal géré? Est-ce que vous êtes inquiet avant le match face à Toulouse? Ça, c'est une question que j'allais te poser également aussi, Roland. Parce que mine de, t'as pas Mbappé Neymar, c'est 51% début du PSG cette saison, c'est 25 plus 17 pour Mbappé et pour Neymar. On avait vu le match face à Reims, ils ont pas été très bons. Face à Montpellier, tu l'avais dit d'ailleurs, c'est Montpellier qui a pas vraiment joué parce qu'ils auraient pu faire un truc. T'es pas un peu flippé là pour les Parisiens avec tous les blessés avant Toulouse?
Ben oui, là aussi.
Ça joue Toulouse, hein.
Avec absolument. Avec cette liste de blessés ou de joueurs incertains ou de joueurs à 50%, c'est sûr que le match contre Toulouse est quand même un match qui peut être dangereux. Mais d'un autre côté, quand je vois avec tout ce qui se passe du côté de Paris Saint-Germain, les commentaires, les critiques, et que je vois le parcours quand même de Paris Saint-Germain, et que je regarde le classement, et que je regarde que malgré une période difficile où on n'est pas inspiré du côté de Paris Saint-Germain, que ce soit dans le choix du recrutement, que ce soit Christophe Galtier, eh bien on l'a connu meilleur, il est dans une période un petit peu difficile, malgré ce... Ben, il faut quand même regarder le nombre de fois qu'ils perdent à domicile. Il faut regarder le nombre de points qu'ils ont. C'est quand même assez impressionnant.
Et alors, beaucoup s'interrogent sur la gestion du cas Mbappé. A-t-il trop joué trop vite? Cette blessure était-elle évitable? Question posée à Christophe Galtier aujourd'hui en conf de presse.
Est-ce qu'il a trop joué? Est-ce que c'est évitable? On est dans une saison singulière. Il y a eu une Coupe du Monde en plein milieu. Je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs, que ce soit des clubs où il y a eu beaucoup d'internationaux, il y a de la fatigue qui est générée automatiquement et qu'il y a des blessures. J'ai par philosophie de dire que les blessures font partie du métier. On est malheureux tout d'abord pour Kylian. C'est un compétiteur, il veut être présent tout le temps. On est malheureux pour lui.
Voilà la réaction donc de Christophe Galtier à la blessure de Kylian Mbappé. T'en dis quoi toi, docteur Courbis, justement, quand t'écoutes les explications de Christophe Galtier? C'est vrai que c'est difficile, tu fais quoi? Tu lui as donné du repos, il y a eu cette tournée en Arabie Saoudite, il est revenu, enfin...
Disons que, évidemment, qu'on pouvait faire au mieux et d'anticiper un peu plus les choses en ce qui concerne Mbappé en se disant, à force de tirer sur la corde, tu le connais, le proverbe, elle va finir par casser. Là, elle a même pas cassé, elle s'est un petit peu étirée. Mais c'est sûr que Christophe est obligé de prendre ça. Tu t'imagines Christophe Galtier en disant, putain, que ça a été nul. Là, on aurait pu quand même penser à ça. On aurait pu penser quand même que le match, là où il a marqué ses buts, mais qui rejoigne et qui s'approche du record de Cavani, on n'en a rien à cirer. Donc c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on pouvait mieux faire. Surtout que ce Mbappé est quand même particulier. Là où je pense qu'il aurait pu se servir de cette question pour sauter sur l'occasion, c'est quand on a pu le critiquer en ce qui concerne le fait que Mbappé ne défend pas. Ben, ironiquement, tu vois, moi avec mon ironie habituelle, j'aurais répondu, c'est vrai, et heureusement qu'on l'a pas fait défendre, parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé dans son organisme?
On accueille Damien, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut Damien.
Bonsoir messieurs.
Bienvenue à toi. Salut, Damien. Qu'est-ce que t'en penses de cette gestion du cas Mbappé? Est-ce que tu penses que c'était évitable ou pas, comme le dit Christophe Galtier?
La gestion, pour moi, elle est même pas à remettre en cause, parce que qu'est-ce qu'on a à gérer en fait? Là, tout est dans le mot gestion. On a quoi à gérer? On a rien à gérer. On est à la rue depuis le début de l'année. S'il joue pas, on peut se faire éliminer. En Coupe de France, ça aurait été compliqué, mais bon, on sait jamais avec Paris maintenant. Hein, on n'est plus à l'abri de rien. En championnat, s'il joue pas. On peut perdre le fil. Si c'est Marseille, si c'est Lens qui est champion,
excuse-moi de te couper. tu peux rajouter, c'est pas que je veux que tu dises la même chose que moi, mais c'est pas la première fois qu'on peut entendre que, et pour l'équipe de France et pour Paris Saint-Germain, il vaut mieux faire des prières que Mbappé ne se blesse pas, hein, parce que la saison dernière, dans les quatre derniers mois, avec la grande forme de Pochettino, ben heureusement qu'il y a eu Mbappé.
Après, on a ce côté poissard, ça c'est sûr. Il y a toujours quelqu'un à cette période-là qui vient se blesser.
Oui, mais justement, est-ce que c'est que de la poisse, Damien ? Parce que la question, c'est aussi un peu là. Pour que ça se produise tout le temps à ce moment-là, alors effectivement, il y a peut-être le hasard. Alors, il y a des explications certainement objectives et rationnelles. Hein. Il y a eu la Coupe du Monde à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, tout à l'heure, on en parlait avec Pierrot Dorian à la rédac, tu as l'impression que le PSG, à chaque fois qu'il y a des matchs importants qui arrivent en Ligue des Champions, il y a un joueur important qui se pète. C'est comme ça à chaque fois, en fait.
Ben est-ce que c'est pas aussi psychologique? Tout le monde parle de l'aspect psychologique des éliminations du Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à tenir. On est d'accord, il y a des trucs horribles qui sont arrivés à Paris avec Barcelone, etc. Mais je pense que dans ce club, il y a un vrai problème. Plusieurs fois, ça a été évoqué, qu'il y a eu des coachs mentaux, etc. On arrive à une période où les joueurs, je pense, ils rentrent dans un phénomène psychologique qui est propre au club. C'est que les mecs, ils se disent, c'est maintenant là que ça va se jouer. C'est maintenant qu'il ne faut pas que je me blesse. Est-ce que je me demande? Je sais pas, je suis pas dans le vestiaire, mais est-ce que c'est pas cette période-là? Est-ce que les joueurs pensent pas comme ça? Il y a de la retenue, on voit sur le match contre Lens, contre Rennes, etc. Il y a des joueurs contre Reims qui sont déjà pas là, ils sont déjà ailleurs et je pense qu'ils sont sur la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a ce problème à Paris et ce problème il n'est pas réglé et il va falloir vraiment le régler. C'est l'aspect psychologique. La deuxième, c'est que cette année, et je pense et j'espère être un des premiers à le dire, Paris, c'est que le début de quelque chose. Il va se passer des choses dans tous les clubs avec tout ce qui s'est passé entre l'hiver. Partir au Qatar, revenir, etc. Je pense que ça va péter dans tous les clubs. Il y aura des soucis physiques, des pépins, etc. Surtout après l'après-Coupe du Monde. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que je m'avance, mais je pense que ça va. On va le retrouver ça un petit peu partout, ces blessures-là qui vont arriver, fatigue musculaire, les petites blessures, etc. Mais sur le propre au PSG, c'est ce problème psychologique qu'il y a dans ce club. Et je pense que lui, il n'est jamais parti. Et c'est peut-être le problème à régler, je pense, franchement.
Roland, t'en penses quoi? Moi, j'aime bien ce que dit Damien, là, l'aspect psychologique. Est-ce que ça joue pas, ça aussi?
Oui, ça peut jouer un peu. Après si tu veux, pour arriver à savoir et à comprendre tout de A à Z, c'est même pas une enquête qu'il faudrait faire. C'est plusieurs enquêtes parce que les joueurs sont différents. Quand, par exemple, tu es le Paris Saint-Germain, si tu es étonné que, par exemple, un Verratti prend un carton jaune, et je parle pas d'un rouge, de façon stupide. Ça fait 90 cartons qui prend. Si tu es étonné de ça, ben c'est le contraire qu'il faudrait que tu sois étonné. Si tu es étonné que Neymar ait un problème, eh ben, c'est le contraire qui devrait t'étonner. Il y a certaines catégories de joueurs qui sont aussi sympas les uns que les autres, mais tu peux les mettre dans la catégorie de joueurs pénibles. Je vois Attal à Nice, qui chaque fois, il est en reprise. Il y a Tolisso de Lyon. Il y a Dembélé qui allait très bien. On faisait des prières et tout du côté du Barça. Et patatrac, tiens, ça repart aussi. Tiens, cette catégorie de joueurs. Et maintenant, avec ce que fait Mbappé, avec ce que son organisme prend comme changement de rythme, comme accélération, parce que lui, on parle de sa vitesse, mais c'est surtout de son accélération qu'il faut quand même se pencher. C'est un joueur totalement différent. Et que Mbappé, de temps en temps, se blesse, ben, je suis désolé, c'est s'il se blessait pas que ça serait inquiétant, parce qu'au lieu de regarder s'il a pas des fois une voiture, ben, on regarderait si c'est pas une soucoupe volante, s'il arrive pas d'une autre planète. Tu vois, donc, le mec, de temps en temps, oui, effectivement, avec tous les sprints que fait Mbappé, eh ben, de temps en temps, il y a les ischios qui souffrent un peu.
Ce sera demain, ce match entre le PSG et Toulouse à 17h. Merci Damien d'avoir été avec nous.
Merci à vous, monsieur.
Bonne soirée, à très vite, Damien. Tiens, dernière petite info qui concerne le PSG. Nagelsmann, donc, qui a dit qu'en gros, il a expliqué qu'il pense que c'est du bluff, la blessure de Mbappé qui sera là en Ligue des Champions face à son Bayern. Il a annoncé, en revanche, que Sadio Mané, il serait pas prêt pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions. Le Sénégalais qui a repris l'entraînement il y a quelques jours. Vous savez qu'il avait raté la Coupe du Monde en raison d'une blessure. Puis, là aussi, on peut dire que c'est du bluff,
On peut lui répondre que, premièrement, même si c'est du bluff, Sadio Mané, ce qu'il y a de sûr, c'est que si, par exemple, il est rétabli pour le match aller ou pour le match retour, on n'aura pas un Sadio Mané à 100%, parce que entre la reprise d'un joueur et le retour à 100% des qualités de ce joueur, ça fait deux choses totalement différentes.
Allez, dans quelques instants, on va se lancer dans une autre affiche de Ligue 1 demain, 3 Lyon, ce sera 19h sur RMC, là aussi supporter de l'OL. Est-ce qu'on est trop dur avec Chéroux, le boss du recrutement de l'OL? On vous attend au 32-16. Il était en conférence de presse aujourd'hui en compagnie de ses deux recrues de l'hiver, Jeffinho et Amin Sarr. Et tiens, juste avant de marquer une pause, petit détour par le basket, il y a de l'Euroleague ce soir, Monaco face au Real Madrid, et on suit ça avec Maxime Tillet. Salut Maxime.
Salut Nico, salut coach, bonsoir à tous.
Il fait du basket celui-ci.
Eh oui.
Dans les belles salles, hein, à Louis II.
Voilà, sur les parquets, là, il y a une belle affiche en plus entre le Real Madrid qui a le deuxième bilan. Eh oui, deuxième bilan de cette Euroleague, le Real Madrid, plus grand club de basket en Europe. Et puis Monaco qui est quatrième, hein, qui est juste derrière. Les Monégasques qui mènent de 3 points. Ça fait 54 à 51 à 6 minutes de la fin du troisième quart-temps. Attention, côté Real Madrid, il y a Mario Ezonja qui a déjà mis 20 points, le Croate qui est en feu.
Merci beaucoup Maxime, supporter de l'OL, on vous attend en 32-16. Est-on trop dur avec Chéroux? On vous attend avec Roland Courbis. Roland. Oui, Roland, vas-y.
Je rajouterai à la liste de joueurs qui sont pénibles à gérer, N'Golo Kanté, Pogba.
Oui, mais là on arrête,
ça vient. Voilà, ce sont des joueurs, mais il y en a un à l'OL aussi. Donc si la
liste,
ce sont des joueurs, et j'en ai connu aussi que c'est très compliqué à gérer.
Et bien tout de suite sur RMC avec Roland Courbis.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Il est 20h16, vous êtes sur RMC à 20h45. Coup d'envoi du Multi-Ligue 2, 22e journée de Ligue 2, avec notamment les affiches entre Le Havre, le leader, et le PFC, avec Sochaux deuxième qui sera à Rodez, avec Bordeaux qui a égalité de points avec Sochaux et qui sera à Pau, des matchs que vous vivrez en direct sur RMC. Demain, premières affiches de la 22e journée de Ligue 1. On évoquait tout à l'heure le PSG Toulouse qui sera à 17h. À 19h, on aura 3 face à Lyon, l'OL qui est dans le ventre mou de la Ligue 1, vous le savez. Et aujourd'hui, c'était journée de conf à Lyon. Présentation des recrues de l'hiver, Jeffinho et Amin Sarr. Ils étaient accompagnés de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et Bruno Chéroux. Et le responsable du recrutement de l'OL qui en a profité pour répondre aux critiques dont il est la cible depuis quelques temps.
Si je dois me justifier sur toutes les rumeurs qui sortent ou sur toutes les pistes qu'on étudie ou sur tout le travail qu'on doit faire, on ne va pas s'en sortir. Après, peut-être qu'il y a certainement une communication différente à avoir pour montrer comment on travaille, être un petit peu plus transparent, être un petit peu plus ouvert, même si dans le recrutement, il y a quand même une partie très confidentielle qui fait qu'on ne peut pas non plus tout dire. Mais voilà, après, quand je crois que c'est le président tout à l'heure qui a fait un petit peu le bilan des arrivées et des sorties, moi, je veux bien être responsable de beaucoup de choses, mais ça fait que une petite année que je suis revenu au recrutement des garçons et que 6 mois auprès de l'équipe professionnelle, donc je ne peux pas être accusé non plus de tous les maux.
On est trop sévère finalement avec Bruno Chéroux. Est-ce qu'il faut lui laisser du temps, supporter de l'OL? Venez faire votre bilan vous aussi au 32-16, on vous attend. Je te pose la question à toi Roland, qu'est-ce que tu en penses de la justification, de l'explication du moins de Bruno Chéroux?
Ben, il a tout à fait raison, dans le sens il est là depuis un an. Je sais plus, là on en discutait aujourd'hui, il serait responsable de quoi? De la venue de Fèvre.
Ben, alors c'est ce qu'il a dit. Il a dit, ok, Fèvre, ça a été un raté, mais il dit Tolisso, Lacazette, tout le monde trouvait ça génial. Tagliafico, il est champion du monde. Voilà, il a pris aussi des exemples plutôt positifs.
Oui, puis bon, hier on n'était pas d'accord avec Daniel, mais ça c'est pas nouveau. Au contraire, ça met même un petit peu de l'ambiance. Mais moi, je trouve que Lyon a une douzaine de joueurs, c'est peut-être insuffisant, mais capable de terminer dans le pire des cas 5e de notre championnat, et avec 2-3 recrues qui sont des renforts et non pas des recrues, tu sais la différence que je fais entre recrues et renforts, mais cette équipe de Lyon et cet effectif de Lyon pourrait se mêler avec les 6 ou 7 voire 8 équipes que nous avons maintenant en Ligue 1 qui font plaisir par leurs résultats et par leur façon de jouer. Quand je vois le dernier match de Lyon, ben, si je suis entraîneur, si je suis directeur sportif, ou si je suis président, je demande que on joue tous les jours de cette façon-là, qu'on ait les mêmes stats, qu'on ait 22 tirs contre 3 c'est notre adversaire, et à ce moment-là, on aura plus de chances de gagner les matchs que de pas les gagner. Donc, il y a des améliorations à faire à Lyon, mais là, attendons un petit peu de voir les nouvelles recrues, bon, Lovren et Lovren qui puissent former avec Loukeba une charnière centrale de très très bon niveau.
Je sais que t'aimes bien, toi, cette charnière. Pour toi, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, tu dis pour toi c'est l'une des meilleures charnières de Ligue 1.
Ben oui, parce que c'est complémentaire. Il fallait à Loukéba un vétéran, un expérimenté. Boateng, c'est sûr que celui ou ceux qui ont eu l'idée de prendre Boateng, on peut pas dire que c'était l'idée de la saison, je dirais même pas l'idée du siècle. Hein. Donc Boateng, aujourd'hui, a peut-être des problèmes, la tête ailleurs et tout. Quand je vois un arrière central, même d'un certain âge, qu'on est obligé de faire sortir à la 75e minute parce qu'il a plus d'essence, là, tu peux dire quand même que tu t'es trompé dans le recrutement. Mais c'est pas Chéroux. Donc c'est personne d'autre. Et en ce qui concerne Lyon, on connaît, ou alors on le fait esprit un petit peu, parce que ce club-là est quand même un club important dans une ville importante. Et Jean-Michel Aulas comme président, et Vincent Ponceau, j'ai le plaisir depuis de longues années de les connaître. On va pas dire que ces gens-là sont des gens incompétents. Après que Juninho ait pu être mal utilisé et que lui-même accepte un rôle de directeur sportif qui n'est pas du tout dans ses cordes. Pour moi, Juninho, ça doit discuter football, ça doit discuter avec des joueurs, ça doit ressembler à un entraîneur ou à un entraîneur.
Il a fait venir quelques bons joueurs aussi.
En plus.
Guimarães, Paqueta, tu vois, c'est pas.
En plus, non, mais je veux dire par là, ça c'est recruteur. Je te parle de directeur sportif. Directeur sportif, c'est quelqu'un qui dirige sportivement un club.
Mais il est aussi en charge de recrutement.
Je dis que oui, mais Juninho, pour moi, ce n'est pas un directeur sportif. Que ce soit quelqu'un compétent pour choisir deux bons Brésiliens et qui est son pays d'origine, ben, il a fait et bravo. Mais que ce soit un directeur sportif, je dis non. Donc, dans le problème, là, on interview Jean-Michel Aulas. Alors, qu'est-ce que vous dites, Juninho, si c'est là? Mais donc, Juninho, ben, je l'ai mis directeur sportif. Effectivement, c'est plus un entraîneur qu'un directeur sportif.
On accueille Ilyes, supporter de l'OL, qui nous appeler au 32-16. Salut Ilyes.
Salut l'équipe, salut coach.
Salut Ilyes.
Alors qu'est-ce que t'en penses de ce mercato Ilyes, et surtout qu'est-ce que t'en penses des critiques qui ont été faites à Bruno Chéroux et de sa réponse qu'on a entendue là il y a quelques instants?
Écoutez, je m'excuse, j'ai pas écouté la réponse de Bruno Chéroux. Par contre, les renforts, comme a bien dit coach Courbis, ouais, c'est pas des recrues, c'est des renforts. Ils vont nous aider, je pense pas trop. Il nous fallait des joueurs un peu plus expérimentés, je pense. Pour moi, du style, on aurait tenté Branco Vandenbomen à Toulouse, ou un Younous Abdelhamid pour, bon, avant Lovren. Maintenant qu'il soit arrivé, c'est très bien comme ça. C'est vrai que ça fait une bonne paire avec Loukéba derrière. Mais, pour parler des renforts.
Mais attends, je te donne, bon, ton gardien, ça va, il est quand même, il fait partie, allez, des 5 ou 6 meilleurs gardiens français, oui. De l'arrière gauche, oui. Ça va, la charnière centrale, ça va. En ce qui concerne les deux arrières latéraux, Mal Augusto, il peut se partager le boulot avec, comme il s'appelle, le jeune de 18 ans,
Koumedi,
ben, je le trouve même meilleur que Mal Augusto. Donc, ensuite, au niveau des 6-8, là où je suis surpris, c'est qu'on cherche un numéro 6, c'est qu'on est déçu de... Mais là, il y a quelque chose qui m'échappe, et c'est logique qu'il y a quelque chose
depuis
qui m'échappe.
Mais, on n'a pas de numéro 6.
Ben oui, mais si par exemple, Le Penant, Tolisso, Caqueré et Mendes, ça peut pas faire un quatuor de numéro 6 qui se partageront le boulot et que tu peux jouer avec deux des quatre, ou même dans certaines parties des matchs, trois des quatre. Et ensuite, en ce qui concerne le côté offensif, on va attendre un petit peu ce qui se passe du côté de Jefinho, le petit Jeff. Alors là, c'est quand même inquiétant, parce que tu me parles de Toulouse. Toulouse, ce sont des clubs qui ont des habitudes et des idées de s'occuper des stats de joueurs. Quand on me dit qu'un joueur, bon, c'est vrai qu'il y a Doku du côté de Rennes qui est maladroit lui aussi et qui a été acheté à un certain prix. Donc ils ont des progrès à faire. Mais que les stats de ce joueur-là, c'est le joueur le plus maladroit du Brésil. ben c'est vrai qu'on attend avec impatience de le voir. C'est sûr que si par exemple le mec en dribblant il se crée 10 occasions et qu'il en rate 9, évidemment qu'il sera maladroit. Mais s'il te marque un but par match sur le dixième dribble, eh ben on le pardonnera.
Tiens, il y a juste un truc, parce que Chéroux justement dans le son il disait que il y a peut-être un problème dans la communication de la part de l'OL, notamment vis-à-vis du recrutement. C'est vrai que là on peut penser à Longoria. Longoria il aime bien faire des confs de presse fleuve où il explique aux journalistes sa stratégie, ce qu'il a fait pendant le mercato. Est-ce que tu dirais, toi, qu'il y a aussi des couacs de communication, que c'est ça le problème à l'OL ?
Bon, des couacs de communication, il n'y a pas que ça qui cloche chez nous. Je pense même, Bruno Chéroux déjà, de base, cette cellule de recrutement, ça ne convient pas à l'OL. Ça n'a rien ramené de bon. Pour moi, je pense, je parle pour moi, hein. Uniquement Tagliafico, personne d'autre. Juninho, je veux pas. Et on l'a ce qu'il a voulu, on l'a ramené. Voilà quoi.
T'es pas emballé, Ilyes.
Comment ?
T'as pas l'air emballé en tout cas, Ilyes. T'as l'air plutôt résigné.
Non, pas du tout. Ouais, c'est des renforts. Merci Courbis. Tu l'as très bien expliqué. C'est un peu le bordel quand même chez nous.
Maintenant, si j'ai un conseil à te donner en tant que passionné de football. Parce que je suis tellement passionné, c'est pas parce que j'ai aussi des obligations de consultant. Même si j'étais pas consultant, je m'occuperais de ce qui se passe à Lyon, à Marseille, à Paris Saint-Germain. Ben parce que bon, le football depuis l'âge de 7-8 ans, ben c'est ça a été mon compagnon. Mais en ce qui concerne ce qui se passe à Lyon, aujourd'hui, on attaque le mois de février. Il y a encore la possibilité, chose que la saison dernière. Lyon a été éliminé de la Coupe sans même avoir été éliminé. Donc, de cette Coupe de France, il y a un tirage au sort qui n'est pas évident. Il va falloir éliminer Lille. Mais il reste encore la possibilité de bien travailler en championnat, de faire ce parcours en Coupe pour maintenir les supporters avec un espoir, c'est d'aller au bout et pourquoi pas de la gagner. On pense ça du côté de Marseille, on pense ça du côté de Lille, on pense ça du côté de Paris Saint-Germain, on peut penser ça du côté de Lyon. Et ensuite, ben regardez un petit peu l'évolution des choses pour déjà préparer, et là on jugera Chéroux, pour déjà préparer l'arrivée de 3-4 très bons joueurs. Il y a quand même eu le club qui a été vendu de façon extraordinaire par un dénommé Jean-Michel Aulas, avec l'arrivée d'une énorme somme d'argent et la possibilité de convaincre la personne qui maintenant a la responsabilité de décider, ben de lui faire acheter 3-4 joueurs, et il y a quand même 4 mois pour réfléchir au profit de ces 4 joueurs. Donc du côté de Lyon, ne tombons pas malades, il y a pire comme situation, il y a une période difficile, mais il y a eu une période où c'était même pas rigolo du tout, puisque Lyon dominait le football français de la tête et des épaules. Il n'y avait même pas de suspect. Allez. Lyon a dominé le football français plus que ce qu'a pu dominer le Paris Saint-Germain de QSI, qui, eux, n'ont pas été champions avec Monaco, Montpellier et Lille. Lyon, 7 années consécutives champion. Ça, je ne l'ai jamais vu.
Allez, merci Ilyes de nous avoir appelé au 32-16. Tiens, juste avant pour clore la page lyonnaise, Jean-Michel Aulas, il était aussi présent en conf de presse aujourd'hui. Alors, il a déploré le climat de tension, latente, je cite, qui règne à Lyon en ce moment, avec les problèmes des supporters, de certains supporters notamment. Il y a une petite scène qui illustre un peu ce climat un peu tendu, on va dire. Laurent Blanc, qui était en conf d'avant-match, et pour les questions sur le match avant le match face à Troyes, qui sont venus assez tard selon lui, et ça lui a pas forcément plu à Laurent Blanc.
C'est bon, je vous vois et vous avez plus de questions à poser. Je m'en vais, au revoir, merci. Non mais c'est vous qui décidez de parler de Troyes après 10 minutes de donc merci, au revoir.
Voilà, un peu agacé Laurent Blanc. Il a fait ça avec le sourire, hein. Il n'y avait pas d'animosité, il était un peu gonflé d'avoir eu la première question sur le match après 10 minutes.
Pour envoyer, pour emmener, si tu veux, des journalistes, j'ai quand même déjà vu pire. donc là, bon, ben ça va.
Est-ce que t'as fait pire, toi, déjà?
Non, mais bon, j'essayais d'être courtois. Il y a des fois, c'était difficile. Par exemple, sur la période de Lyon aujourd'hui, si par exemple je suis en conférence de presse et qu'on me pose comme question, et qu'est-ce qui va se passer, le mercato, le pourquoi de ci, le pourquoi de là, j'ai attendu. on joue contre Troyes, vous me parlez du match de Troyes, après je vous donnerai deux trois réponses à deux trois questions. Je suis là pour le match de Troyes, je suis pas là pour le mercato, donc c'est tout.
Allez, dans quelques instants, supporter du HAC, on vous attend en 32-16, on sera avec Christophe Lécuyer, on va suivre le match entre Le Havre et le PFC, entre autres, il y a Multiligue 2, 22e journée ce soir, Le Havre le leader avec 10 points d'avance va recevoir le PFC. Quels sont les secrets du HAC, hein, qui est largement en tête de la Ligue 2, on vous attend en 32-16, supporter à vrai. Avant cela, on passe par Monaco, Euroleague de basket ce soir. Maxime Tillet, tout à l'heure, on t'a quitté, Monaco était en tête face au Real. Est-ce que ça se passe toujours aussi bien pour les Monégasques?
Eh bien, c'est toujours le cas. La SM mène d'un petit point face au Real Madrid. Il reste 6 dixièmes de seconde dans le troisième quart-temps. Ça s'annonce serré, cette affaire. En tout cas, l'aller Monaco avait gagné d'un petit point après prolongation. Donc, à mon avis, on est bien parti pour que ça dure un petit moment encore.
Merci, Maxime. Dans un quart d'heure, pile poil, coup d'envoi de la 22e journée de Ligue 2, Multiligue 2 à venir sur RMC avec Roland Courbis. Et on parle, on évoque, on analyse le HAC juste après ça.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Et Roland Courbis, il est 20h33, vous êtes sur RMC dans 12 minutes exactement, coup d'envoi de la 22e journée de Ligue 2, Multiligue 2 à venir sur RMC, avec Roland Courbis donc et avec nos correspondants. On sera notamment avec Paul Lafitte pour vivre le match entre Pau et Bordeaux. Salut Paul. Il est là, mon Paul.
Salut Nico.
Il est là.
Salut
coach. Paul.
Bonsoir,
ça va
à toutes et à tous. Ouais, ça va bien.
Au Douze-Camp, l'ambiance est bonne.
Pardon ?
L'ambiance est bonne au Douze-Camp.
Ah, magnifique, à guichet fermé ce soir évidemment, hein, le derby aquitain entre les Girondins de Bordeaux,
eh oui,
qui viennent donc fouler
le Didier Toloico.
C'est ça aussi, ouais, ouais. Qui vit toujours à Bordeaux, hein, qui a toujours une résidence principale à Bordeaux et qui entraîne le Pau FC et qui entraînera, qui sait, hein, peut-être un jour cette équipe des Girondins de Bordeaux. On avait d'ailleurs parlé, Nico, de Didier Tolo pour prendre la suite aux Girondins de Bordeaux lorsque, eh bien, les Marinés blancs n'allaient pas bien. Et finalement, eh bien, Didier Tolo est resté à Pau, a permis au Pau FC de se maintenir en Ligue 2. Et donc, c'est une très très belle affiche avec une véritable ambiance. Je le disais à guichet fermé, hein, beaucoup de supporters girondins sont venus. Il y aura un petit peu plus de 4000 spectateurs dans le Nouste Camp ici donc pour assister à ce duel entre le Pau FC et les Girondins de Bordeaux.
On rappelle un Bordeaux qui est l'une des équipes qui est juste derrière Le Havre, enfin juste derrière, ils sont à 10 points du HAC. C'est le cas de Sochaux également qui sera à Rodez. Tiens, il y a un match important pour le maintien également, match entre Valenciennes et Laval, match qu'on va vivre avec Jean Baumel. Salut Gibo.
Salut Nicolas. Salut coach, bonsoir à tous.
Salut
et à tous.
Gibo.
Et on le verra, c'est pas la grande forme, hein, Gibo.
Non, ils avaient bien démarré la saison et puis il y a
15e,
eu aussi.
Hein.
Ouais, 15e avec 5 points d'avance seulement sur le premier relégable. Donc début de saison pas mal. Ils avaient un bon gardien, Gauthier Larsonneur, parti à Saint-Etienne. Alors on va pas dire qu'il y a que ça, mais c'est jamais bon signe quand t'as un très très bon gardien. C'est Bajic.
Et comment il se débrouille?
Bah écoute, il a fait son premier match la semaine dernière et bon, non, il y a 15 jours et là ils en ont pris 4 à Sochaux, tu vois, donc
ah oui.
C'est un peu compliqué. Il y a des joueurs comme tu vois Kufo, Debuchy qui sont blessés. Voilà, donc c'est un peu compliqué et notamment le match aller. Je vous racontais ce qui s'est passé. Je sais pas si parce que c'est quand même assez rare face à Laval, hein, Laval qui est un petit peu mieux et qui a un petit point de plus, hein, 12e, à 9 dès la 32e minute, ils sont à 9 les Lavallois, et à la 42e ils arrivent à marquer contre Valenciennes qui est à 11 et ils gagnent 1-0.
Ah oui.
T'imagines le truc, ça c'est le genre de choses, ça peut te mettre la tête dans le sac pendant un paquet de temps.
Ah oui.
Et c'est vrai que depuis ce moment là coach, bah, les résultats sont moyens, mais ils font des choses assez étonnantes parce que c'est la seule équipe Valenciennes qui a battu le Havre. Ils menaient pendant longtemps face à Metz, ils ont fait un partout. C'est une équipe qui est un petit peu, et voilà, on peut pas trop se fier sur ce qu'est capable de faire Valenciennes, mais en tout cas une nouvelle fois l'objectif ça sera le maintien, ça c'est sûr. Pour Laval également, hein, il n'y a pas d'autre solution que d'espérer le maintien.
Merci mon Gibo. Tiens, il y a plein d'autres affiches qu'on va vivre également avec Johan Bredov. Salut Johan.
Salut messieurs, salut à tous.
Il y a pas mal de belles affiches, notamment le Rodez Sochaux qui est important pour la montée. Hein.
Ouais, pour la montée, pour la deuxième place, tout à fait. Rodez 18e, même pour le maintien, du coup pour les Ruthénois. Et Sochaux 2e. Il y a aussi pour la deuxième place le duel entre Caen et Bastia. Bastia qui est 4e quand même, qui peut prendre la deuxième place. Il y a un duel ultra important cette fois pour la descente, pour le maintien. C'est deux relégables, Dijon 17e qui reçoit Niort dernier de Ligue 2, donc on peut se dire que si Niort perd, il y aura de grandes chances que les Chamois descendent en National. Et ensuite on a deux autres rencontres, Nîmes 16e qui reçoit Grenoble 7e, et enfin QRM 10e qui affronte Guingamp qui est 11e de Ligue 2.
L'équipe la plus surprenante, hein, qu'on l'a pas vu du tout arriver, moi je pensais qu'ils étaient en train de jouer le maintien sans être trop inquiet.
Sébastien, ils sont qu'à 2 points de la 3ème place.
On regarde
Ouais, c'est assez étonnant,
c'est,
ouais.
C'est impressionnant là où ils sont.
C'est la meilleure équipe depuis la fin de la Coupe du Monde.
Alors il reste une affiche ce soir les gars qu'on n'a pas encore évoqué. On garde le meilleur pour la fin. Le Havre face au PFC. Le Havre le leader. Match qu'on va vivre, suivre avec Christophe Lécuyer. Salut Christophe.
Salut Nico, bonsoir coach, bonsoir à tous.
Alors le Havre qui s'est imposé à Bordeaux mardi, invaincu en Ligue 2 depuis 19 matchs. Ils ont égalé une série record d'invincibilité en championnat qui datait de 1958.
Ouais, l'après-guerre. Ouais.
Voilà. J'ai lu une interview de Mathieu Bonnemer également dans Ouest France qui disait on n'avait pas du tout imaginé faire une saison comme ça. Alors ça, on rappelle hein, le Havre qui attend de retrouver la L1 depuis 2009. C'était vraiment pas prévu ce début de saison, Chris.
Ah mais moi ce que j'ai en tête, on en parle souvent d'ailleurs sur RMC Nico, c'est ce premier match de la saison qu'on commentait ici même sur RMC, c'était le 30 juillet dernier face à Grenoble. Ce soir-là, les Havrais repartent avec un tristounet 0-0. Il était dépité Mathieu Bonnemer, il était juste à côté de moi parce qu'on est aussi amis dans la vie. Il me dit, c'est incroyable qu'on ait bossé pendant un mois sur une préparation pour arriver à un résultat comme celui-là, on a de quoi être inquiet. Elle a été métamorphosée, ils ont réussi à créer un collectif incroyable. Il n'y a pas de très forte individualité en fait dans cette équipe, on le disait encore tout à l'heure avec tes confrères. La dernière montée dans l'élite du football français du Havre, c'était il y a 13 ans, il y avait des individualités. Il y avait Christophe Revault, le regretté, il y avait Guillaume Moirot, il y avait des joueurs comme ça. Là imaginez, hein, les meilleurs buteurs de cette équipe à Brest, c'est Alioui, Cornette, 5 buts chacun. C'est très loin des meilleurs buteurs de Ligue 2. Et pourtant, il y a un collectif incroyable qui s'est dégagé. Et évidemment, le mérite en revient en grande partie à Lucas Elsner qui réalise quelque chose d'exceptionnel.
Oui, et puis on a notre consultant.
Oui, Mathieu Bonnemer, c'est effectivement le directeur sportif de cette équipe. Bon,
hein. Et c'est Jean-Michel Roussier qui est tout sauf incompétent. Président, ce ne sont pas des coïncidences. Et puis il y a des saisons, alors elle n'est pas terminée, mais il y a des saisons où il y a beaucoup de choses, je dis pas tout, mais presque tout va bien. Quand on voit le but sur le dernier match, ce centre au plat du pied qui se transforme en but, ah ben là tu sais plus quoi dire. Le Havre, ils ont deux occasions cette année, ils marquent trois buts.
Ouais.
Donc c'est en plus ils sont bons. Donc l'effectif il est intéressant et il y a cette réussite. Qu'on se demande à chaque match, on dit bon, elle va bien s'arrêter, mais pour le moment, elle ne s'arrête pas. Ça ressemble beaucoup à la réussite du champion.
Et alors, tu évoquais hein, Lucas Elsner il y a quelques instants, Christophe. Je sais, Roland, que tu aimes bien la posture hein, de l'entraîneur du Havre.
Ah ouais.
Alors, leader, mais qui, malgré ses 10 points d'avance, préfère rimer avec prudence.
Eh bien, il a raison.
C'est un nouveau moment important. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on sort d'une victoire qui semble déterminante, elle en appelle tout de suite une autre derrière. Et ce match-là revêt une importance assez forte, puisqu'on est absolument certain que des équipes comme Bordeaux, Sochaux, Metz, Amiens peuvent enchaîner 5 victoires d'affilée avec les qualités dont ils disposent et leur capacité de performance. On voit Sochaux qui enchaîne les victoires. Donc pour nous, c'est important de savoir que il y a pas de joker, il y a pas de repos, il y a pas de marge, il y a pas de matelas parce que on doit aller constamment attaquer cette première place.
Tu as vu Nico, il est au courant des dégâts que fait la victoire à 3 points en 5 matchs. En 5 matchs, il a fait 5 fois 3 15. Oh putain, 15, on a que 10 points d'avance.
Alors, c'est vrai Christophe, il y a pas d'euphorie de façade hein, WAC, hein, pour autant malgré les 10 points d'avance hein.
Non, loin de là. Alors, on sent une effervescence quand même, évidemment, on commence à y croire. On attend 15 000 supporters ce soir à Océane. C'est pas neutre parce qu'on sait que ce stade Océane ne fait pas partie des stades qui enregistrent les plus fortes affluences habituellement. Donc évidemment, on se met à y croire, mais surtout pas d'euphorie. On ne s'enflamme pas ni du côté des dirigeants ni du côté des joueurs. Évidemment, même si on a essayé d'apporter une petite touche supplémentaire à l'effectif, on notera d'ailleurs la première de Samuel Grand-Cyr, hein, ce soir, l'ailier droit de 26 ans qui est arrivé en provenance de Los Angeles Galaxy, lui qui est passé par Monaco, par Strasbourg notamment. Il doit apporter un plus sur l'aspect offensif à cette équipe. Maintenant, encore une fois, on sait que le chemin sera long, même si on peut pas le nier non plus, avec 10 points d'avance sur les poursuivants. Le Havre a fait quand même un pas aujourd'hui vers la
Ligue. Ah oui.
Merci beaucoup Christophe. Dans 4 minutes, coup d'envoi de cette 22e journée de Ligue 2 à vivre, à suivre sur RMC. Le Multi Ligue 2 qui vous attend dans quelques instants avec Roland Courbis, avec Christophe Lécuyer, Paul Lafitte, Jean Baumel et avec Yann Bredov. Il y a du basket également ce soir. 23e journée d'Euroleague, Monaco qui menait face au Real Madrid. Est-ce toujours le cas, Maxime Tilliette?
Égalité parfaite à 5 minutes du terme, 80 partout. Ça va être serré jusqu'au bout cette affaire, en tout cas côté Monaco. On peut compter sur un Mike James en forme, l'américain, le meneur américain, qui est déjà à 23 points ce soir.
Allez, le Multiligue de début dans quelques instants. A tout de suite sur RMC avec Roland Courbis pour cette 22e journée de Ligue 2.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
20h44, vous êtes sur RMC. On a quelques secondes du coup d'envoi de la 22e journée de Ligue 2, Multi-Ligue 2 à vivre sur RMC. On est avec Roland Courbis, avec nos correspondants Christophe Lécuyer au stade Océane pour le APFC, Paul Lafitte au Nouskamp pour Pau Bordeaux, Jean Baumel au Hainaut pour Valenciennes-Lavanne, Johan Brenoff pour les autres affiches. On a Rodez Sochaux, Caen Bastia, Nîmes Grenoble, Quevilly Rouen Guingamp et Dijon Niort. Demain 15h, il y aura Saint-Etienne Annecy. On rappelle, hein, Saint-Etienne 19e de Ligue 2. Et puis lundi, là c'est un choc entre deux équipes qui prétendent également à la montée, Amiens face à Metz, le 6e face au 5e. Ça, ça va être un beau duel aussi. Hein, ah ouais. Deux équipes à 3 là.
Deux outsiders.
Ouais. Ouais, ouais, deux équipes qui prétendent également à cette deuxième place. Alors, on aura bien sûr un œil attentif au stade Océane avec toi, Christophe Lécuyer, pour le match entre Le Havre et le PFC. Le Havre qui compte 10 points d'avance sur ses deux premiers poursuivants, à savoir Sochaux et Bordeaux, Christophe.
Ouais, coup d'envoi dans un instant. Il sera donné par Gaël Angoul, à l'arbitre de cette rencontre, dont le coup de sifflet est donné maintenant. Suivant évidemment Nico, la performance également du Paris FC qui ne va pas bien du tout. Trois défaites de suite, c'est un début de crise du côté du club de la capitale. Coup d'envoi donné à l'instant ici à Océane.
Et c'est parti à Pau également, Paul Lafitte.
Oui, parti pour ce derby aquitain entre le Pau FC et les Girondins de Bordeaux. Nico, tu le précisais, Bordeaux battu en début de semaine par le Havre. C'était à domicile alors que Pau allait s'imposer sur la pelouse du Paris FC à la surprise générale. Une petite victoire 1-0, mais qui a fait beaucoup de bien à l'équipe de Didier Tolo, qui était à la recherche d'un succès depuis 6 journées et qui voyait son classement eh bien, glisser. Les Palois étaient 15e alors qu'à la trêve, avant la Coupe du Monde, ils étaient 9e. Mais cette belle prestation a fait du bien avec ses 3 points. Et évidemment, Didier Tolo l'a dit cette semaine en conférence de presse, l'objectif c'est bien évidemment de doubler la mise à domicile face à une équipe de Bordeaux qui marche bien depuis pas mal de temps, à l'exception évidemment de ce revers face au Havre. Mais on le rappelait dans le classement général, hein, Sochaux, Bastia et Bordeaux ont le même nombre de points. Cela sera serré jusqu'au bout, alors qu'il y a peut-être une première occasion pour le Pau FC. Finalement, la sortie du gardien Gaëtan Poussin, 0-0. Nico et coach, ici une petite minute de jouer au Nouskamp.
C'est parti partout, hein. C'est parti entre Valenciennes et Laval aussi, hein, Jean Baumel.
Oui, c'est parti avec un gros choc. Heureusement, il va mieux, dit Liberto, hein, l'une des grandes satisfactions de Valenciennes, le jeune milieu de terrain qui, voilà, choc tête contre tête, voilà, involontaire, hein, il va sortir quelques instants, mais ça va, il devrait retrouver ses partenaires. 0-0, 1 minute 30 de jeu, mais bon, on a vu quasiment rien puisque le choc est arrivé très vite. Le ballon qui revient donc en faveur de Valenciennes, et on sait pas qui va le tirer, ce coup franc du coup, on va le laisser quand même en faveur de Boatou qui balance loin des vœux devant. À noter, hein, la recrue qui est titulaire, l'Autrichien Garbic, hein, prêté par Lorient, hein, lui qui jouait quasiment plus et qui était l'un des meilleurs buteurs de Ligue 2 il y a quelques saisons avec Clermont. Donc voilà, petit pari de la part de Valenciennes qui s'est prêté ce joueur. 2 minutes de jeu, 0-0. Eddy Liberto qui a rejoint ses partenaires, 11 contre 11. Pour l'instant, pas de but entre Valenciennois et Lavallois.
Le Havre Paris FC, Christophe Lécuyer, le leader qui reçoit le PFC, qui est quand même l'une des grosses désillusions de ce début de saison également, hein, Roland, le PFC.
Oui, oui, absolument.
On en fait à chaque fois un outsider.
Il donnait l'impression, ces dernières semaines, de faire une petite série pour qu'il puisse recoller. Et puis d'un coup, boum, ça s'est arrêté.
Ouais, le PFC qui est 13e, ils ont 6 points d'avance sur le premier relégable, à savoir Dijon. C'est quand même pas la teuf, hein, pour le PFC, Christophe.
Ouais, loin de là, hein, la pire attaque de Ligue 2, hein, 18 buts marqués seulement, 3 défaites de suite, tu le disais. La dernière en date, c'était mardi, à domicile face à Pau, ce qui est d'ailleurs a provoqué la grogne, hein, des supporters du PFC. La cible, c'est notamment l'entraîneur Thierry Loret, qui ne cache pas certes ses responsabilités, même si lui, il invoque aussi le manque de réussite de son équipe. Évidemment, on va suivre la prestation de ce Paris FC en grand danger ce soir sur la pelouse d'Océane. 3 minutes de jeu, 0-0.
Pau Bordeaux, Paul Lafitte.
0-0, un petit peu moins de 3 minutes de jouer, pas mal de changements. Il n'y a pas eu, hein, d'occasion depuis le début de cette partie. Pas mal de changements côté palois avec le départ. C'était en début de semaine d'Alexandre Oliero qui a signé avec un club de Ligue 1, Reims, qui triplera son salaire, qui sera doublure à Reims alors qu'il était un titulaire en puissance dans cette équipe du Pau FC. Puis deux arrivées, celle de Quentin Boigard qui arrive de Lorient et celle de Yanis Begraoui de Toulouse. Et bien pendant le mercato, le Pau FC a donc été actif pour essayer de se sortir de cette zone, hein, dangereuse. On le rappelait, le Pau FC est aujourd'hui 14e de ce classement. Il n'a que 5 points d'avance sur le premier relégable. Il faut donc marquer des points avec un effectif qui grossit. Et bien Didier Tolo espère arriver à ses fins face à une équipe de Bordeaux, avec une surprise dans la composition. On ne l'a pas dit, Nico, hein, sur le banc des remplaçants, Joshua Maja, le meilleur buteur avec 11 réalisations depuis le début de cette saison. Sur le banc des remplaçants, David Guillon a tout simplement fait souffler son avant-centre. Pour l'instant, donc rien de marqué. Un petit peu moins de 4 minutes de jouer ici au Nouskamp.
Ouais, grosse occasion entre Valenciennes et Laval, là, Gibo.
Ah oui, oui, sauvé par une cuisse d'un défenseur lavallois sur la tentative de Bouatou. Nouveau corner, d'ailleurs, pour les Valenciennois. 4 minutes de jeu, 0-0. C'est tiré côté gauche, cette fois. Premier poteau, c'est dévié. Ça revient à la frappe contrée. Double occasion encore pour les Valenciennois. Et re-corner. Le troisième coup sur coup. Ouais, ils enchaînent. Ils démarrent bien cette rencontre. Les joueurs de Nicolas Rabuel. Le centre à venir. Et ça va être capté. Une tête de Bouatou, on confirme l'autre-t-il encore une fois. Alexis Sauvage qui s'impose tranquillement dans les airs. Ouais, bonne entame de match des nordistes. On verra si Damien Garbic fait reparler de lui en tant que buteur, parce qu'à Lorient c'était pour l'instant un sacré échec pour l'Autrichien. On va suivre peut-être l'occasion là pour les Lavallois. Ça va vite dans cette partie avec le ballon repiqué dans l'axe. On a aux abords de la surface de réparation avec Jimmy Roy qui tente le centre mais c'est complètement raté. Ça sort et dégagement à suivre pour Stéphane Bajic, le gardien de Valenciennes. 5 minutes. Bajic. 0-0, 5 minutes de jeu.
C'est Bajic. 5 minutes de jeu partout également, Johan. Et pour l'instant, on attend les premiers buts. Hein, il ne se passe rien non plus sur ta brochette de match.
Ouais, rien à signaler, mais je peux vous redonner les affiches si vous voulez. Quand
t'as 5 matchs et t'as pas un but.
Oui, c'est quoi, ça excuse-moi, Gibo. Ça va arriver. Malin, t'inquiète pas.
On a 15 devant les yeux quand même.
Allez, toi, tu vas finir à 0-0, ça, je le sens. Alors, quand Bastia, Dijon, Niort, Nîmes, Grenoble, Quevilly, Rouen, Guingamp et Rodez Sochaux, donc pas de but au bout de 6 minutes de jouer.
0-0 partout. Tiens, on va aller retrouver Maxime Tillette parce que c'est la fin du match entre Monaco et le Real Madrid en Euroleague de basket. Alors Maxime, on allait te voir d'abord Monaco menait. Il y avait égalité entre Monaco et le Real Madrid. Et alors là, on s'en va et c'est n'importe quoi.
Ouais, bon, il n'y a jamais eu un très gros écart dans le match, mais là, plus 5 pour les Madrilènes. Hein, 85-90, notamment grâce à un énorme shoot, encore une fois, de Mario Ezonja qui est à 28 points. Plus 5 pour Madrid à 1,55 de la fin de cette rencontre. C'est pas fini, tout est possible, mais c'est sûr que les Madrilènes ont pris un léger avantage dans cette fin de rencontre. Money time, messieurs.
Et là, money time, on reviendra te voir dès que c'est terminé. On repart au stade Océane. Le leader de Ligue 2, Le Havre, reçoit le PFC, Christophe Lécuyer.
La 6e minute de jeu, 0-0. Pas d'occasion pour l'instant. On va suivre évidemment avec intérêt la prestation du leader ce soir, d'autant que l'équipe de Lucas Elsner est privée de trois joueurs importants ce soir, on l'a pas dit quand même, mais Gauthier Lloris, Jamal Thiaré, Nabil Alioui, ces trois joueurs sont blessés, ils ne figurent pas dans le groupe ce soir, donc évidemment c'est quand même un handicap pour les joueurs de Lucas Elsner, même si on sait que l'effectif est complet et qu'ils l'ont déjà prouvé cette saison. La solidarité de ce groupe fait que même avec des absents, des suspendus, des blessés, eh bien ils ont enchaîné les belles performances. 8 minutes de jeu ici à Océane, toujours 0-0 entre le leader havrais et le Paris FC.
Et même punition pour l'instant entre le Pau et Bordeaux, Paul Lafitte.
Oui, avec ce score de 0-0, un beau numéro de soliste là, de Quentin Boigard, on le rappelle, arrivé de Lorient, et une première frappe contrée cette fois-ci d'un joueur palois en première intention. Pas de véritable occasion, c'est Erwin Kofi qui avait tenté sa chance. 0-0. Coach, on se rappelle qu'au match aller au Matmut Atlantique, où Pau avait décroché un match nul, un but partout, ça avait été une attaque-défense pendant quasiment tout le match. Peut-on s'attendre au même scénario ce soir ici à domicile, à ton avis?
Pas impossible.
Tiens, on évoquait tout à l'heure le fait que Didier Tolo soit l'entraîneur de Pau, lui, l'ancien bordelais. Tu connais bien Didier Tolo en plus, Roland?
Ah ben oui, je l'ai eu à Toulon et à Bordeaux.
Et alors? T'aimais bien?
Ah ben oui.
Moi, je kiffais le joueur, moi. J'adore. Même l'entraîneur, j'aime bien d'ailleurs. C'est pas mal ce qu'il fait avec Pau, notamment.
On est resté en très bon terme. De temps en temps, un SMS, bravo pour un bon résultat et tout. Donc, c'est un gars adorable.
C'était un match spécial. C'était un match spécial pour lui. Tu disais, il habite à Bordeaux, Paul, etc.
Oui, c'est un match spécial. Son cœur est toujours girondin, et même s'il est en train de performer avec cette équipe du Pau FC, on le rappelle, l'un des plus petits budgets de Ligue 2, il arrive à s'en sortir. Et Nico, on peut le dire, très apprécié des joueurs, mais également des équipes adverses aussi.
Ah oui.
Donc, il fait des différences et il espère bien, que Pau restera évidemment en Ligue 2 à la fin de cette saison. Pour l'instant, donc, rien de marqué ici à Pau Nouste-Camp. 3 degrés, 0-0, on joue la 8e en première mi-temps.
Valenciennes-Laval, Jean Baumel, 0-0 entre le 15e et le 12e de Ligue 2 pour l'instant.
Et oui, au bout de 8 minutes, mais la domination est pour les nordistes. Hein. Les Valenciennois qui sont souvent dans le camp des Lavallois, une touche à suivre côté droit. On va la suivre avec Alan Linguet, qui alerte Garbic. C'est le ballon qui est sorti, la touche cette fois. Et pour Laval, non, c'est Berthomier qui a raté son contrôle et qui a mis directement en touche. Il y a eu ces trois corners. Hein. Ça avait chauffé devant le but d'Alexis Sauvage. Sinon, dans le jeu, il n'y a pas. Y a n'y a pas d'action d'un gauche pour l'instant, avec une tête très profonde là, de la part de Mohamed Kaba, mais ça va directement pour la défense de Laval et on a du mal à se dégager là du côté de Nordis. Voilà, pour l'instant c'est un peu un petit peu décevant ce début de match. On doit être à 5000 supporters maximum et à chaque fois on a toujours des banderoles contre le président Elis Diak, hein, qui fait débat depuis des années ici, pas très apprécié par les ultras. Voilà, bah les par exemple des transferts comme le gardien qui est parti à Saint-Étienne, voilà l'Arseneur, Gauthier l'Arseneur, voilà ça plaît pas trop parce que voilà il annonce en gros ouais, Valenciennes va jouer la montée et puis bah il y a des transferts qui sont pas logiques quoi. Je veux dire, quand tu veux t'affaiblir, tu fais partir ton meilleur gardien. Enfin bref, en tout cas ça fait 0-0, 10 minutes de jeu et dans le jeu ça se passe pas terriblement bien parce qu'on voit pas de grosses occasions.
0-0 toujours également entre Le Havre et le PFC. Christophe Lécuyer.
Ouais, on atteint la 10e minute de jeu ici. Pour l'instant c'est assez équilibré, les Havrais ont le ballon mais c'est une domination très très stérile parce qu'il n'y a pas eu d'occasion franche pour l'instant. Peut-être là justement avec un ballon sur le côté droit, le bon ballon pour les Havrais avec Kitala qui va essayer de centrer, ça a été capté cette balle sans problème par Vincent de Marconnet, l'expérimenté gardien de cette formation du PFC. Et depuis le coup d'envoi, je vous assure que Thierry Loré, il n'a pas mis un pied dans sa surface technique, il est constamment en dehors, il est presque à l'intérieur du terrain, il vit le match à 200% comme à son habitude, hein, vous me direz, mais ouais. On le sent en tout cas particulièrement excité.
C'est
motivé.
Le Loré style. Hein.
Ah oui, c'est du grand Loré.
Et pénalty pour Valenciennes.
Ah, allons-y, Gibault.
Allez, un bon tacle là des familles. Un tacle à l'ancienne, mais raté.
Tu vois. Valenciennes, ouais.
Et bim, pénalty pour Valenciennes. Celui qui s'écroule, c'est le Valenciennois Mohamed Kaba, me semble-t-il. Oui, c'est bien lui. Et la faute est vraiment un petit peu stupide. Alors c'est vrai qu'il rentre bien dans la surface, il peut tenter le centre, mais en tout cas voilà, c'est peut-être comme ça que ça va se débloquer dans cette rencontre sur coup de pied arrêté. Ah ouais. Avec un pénalty, un coach
mais elle, la faute elle est à l'intérieur.
Bah écoute, c'est limite hein, c'est Tapoko, Kevin Tapoko,
il est dedans,
Ah, c'est tout juste hein, tout juste, mais je crois que c'est vraiment à l'intérieur. Alors il n'y a pas de VAR, on rappelle hein.
Ouais, non, si il est dedans.
Ouais, ça peut. En tout cas, sans VAR, bah voilà. De toute façon, c'est sifflé. Donc, pas possibilité de revenir sur la décision de l'arbitre, monsieur Romain Lissorgue. Et celui qui va tirer ce pénalty, eh bien, c'est Adrien Gerbich. Donc, tu vois, pour son premier match, il est arrivé mercredi. Grosse pression. Ça a peut-être lancé sa saison. Ça peut relancer sa carrière. L'ancien Clermontois, désormais poté par Lorient, va-t-il débloquer la situation et jouer le premier but à. Ça me fait plaisir. Ça. J'en connais un qui doit être déçu.
Ouais,
mais
c'est Bredov.
Mais c'est pas fait. C'est pas fait. Attention. Il est sur la ligne des 16-50. Il attend le feu vert de l'arbitre. Adrien Gerbich. Il s'élance. C'est parti. Et c'est dedans. 1-0. Elle était partie du bon côté. Alexis Sauvage a été très forte. Heureusement d'ailleurs. Et ça fait 1-0 pour Valenciennes. Des bons débuts pour Adrien Gerbich qui ouvre son compteur but avec le VAFC.
Et ben voilà, elle est lancée cette soirée, elle est lancée, d'ailleurs c'est en train de se lancer un peu partout. Valenciennes vient de marquer sur pénalty face à Laval. Valenciennes qui va se donner un peu d'air au classement. Ils montent à la 10e place hein, avec ce but en menant 1-0 face à Laval et Valenciennois 15e au coup d'envoi de cette journée. But très important, Johan Bredov.
Et oui.
Entre Rodez et Sochaux.
Et oui, c'est pour toi, Gibault. Et j'ai pas un but, j'en ai même deux à te proposer. Déjà, celui de Sochaux à Rodez à la 12e minute de jeu. C'est Doumbia qui a marqué et qui permet donc au deuxième de Ligue 2 de conforter sa place pour l'instant. Sochaux qui mène donc 1-0 sur la pelouse de Rodez. Et ensuite, entre Nîmes et Grenoble. Grenoble a ouvert le score grâce à Faïton. 1-0 donc pour Grenoble à la 13e minute de jeu au stade des Antonins sur la pelouse de Nîmes.
Et alors là, conséquence au classement. Le Havre toujours leader, 47 points. Sochaux, seul de Dauphin, 39 points pour les Sochaliens, ce qui veut dire que Bordeaux est maintenant à 2 points de Sochaux et est 3ème de Ligue 2. Bordeaux, mon cher Paul Lafitte, qui pour l'instant est toujours tenu en échec à pour. Hein.
Oui, après 13 minutes de jouer, un premier frisson dans les travées du Nouste-Camp avec Dylan Bakoua qui s'infiltre dans la surface de réparation. Un crochet, un centre un petit peu tendu, un petit peu trop fort, qui eh bien, ne trouve pas un partenaire, mais c'était une première occasion donc pour les hommes de David Guillon. 0-0, il y a un arrêt de jeu car il y a un blessé palois assez sérieux suite à un choc avec un joueur bordelais, mais finalement il va se relever, le joueur palois. palois solide. 0-0, pas d'occasion donc pour l'instant dans ce début de rencontre entre les Palois et les Bordelais.
Le temps, le score entre le leader, le Havre, et le Paris FC, Christophe Lécuyer.
La 14e minute de jeu à Océane, 0-0.
Valenciennes-Laval, Jean Baumel.
1-0 pour Valenciennes, but sur pénalty de Garbic à la 13e.
Et tous les autres résultats avec toi, Johan Bredov.
1-0 donc pour Sochaux à Rodez, 1-0 pour Grenoble à Nîmes, et sinon pas de but entre Quevilly-Rouen et Guingamp, entre Dijon et Niort, et entre Caen et Bastia, on arrive au quart d'heure de jeu.
Ouais, et à noter qu'avec ces résultats, donc je vous rappelle, hein, le Havre leader avec 47 points, Sochaux 2e, 39 points, Bordeaux 3e, donc pour l'instant n'est pas dans les places de la montée, il n'y a que les deux premiers qui montent, ils sont à 2 points des Sochaliens, et Grenoble monte à la 4e place, Grenoble qui revient à 3 points de la 2e place, Grenoble donc qui mène 1-0 à Nîmes. La suite de ce Multiligue 2 dans quelques instants, petit détour par le basket également, Monaco-Real Madrid de l'Euroleague, Maxime Tillet, c'est les tout derniers instants du match. Hein.
Il reste 20 secondes et il y aura sans doute des lancers francs pour le Real Madrid, oui c'est confirmé, le Real qui mène 91-88, plus 3 à 20 secondes, ballon dans les mains donc du Real. C'est dur parce que Monaco avait la balle là pour aller chercher l'égalisation. Mike James, le leader offensif monégasque, était sur la ligne à 3 points dans un fauteuil, il a fait le choix de l'extra passe dans le corner, malheureusement son coéquipier n'était pas réceptif, ballon perdu, c'est dommage, dernière possession à venir ensuite, mais là le Real Madrid a de quoi faire le large, plus 3 pour le moment à 22 secondes du terme.
Et dans quelques instants, coup d'envoi d'un autre match d'Euroleague de basket qu'on suivra avec Jérémy Donzet, le match entre l'Asvel et Bologne. Nous on revient dans une poignée de secondes avec Roland Courbis pour la suite du Multiligue 2 notamment. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'Afterlife.